qu'on s'est mis dehors et donc...
Il faut tenir un peu par-dessus.
Ouais, mettons peut-être tout un peu... Je répète ce que j'ai dit ou ça va, hein? Ouais. Mais c'est plus clair ce que j'ai dit?
Non, je pose des questions naïves parce que c'est clair, hein, pour tout le monde. Pour me... Donc si je comprends bien, vous pensez à une introduction dans laquelle vous expliquez à la fois le projet, ensuite l'évolution du projet et ensuite ce qu'on trouve dans le livre.
C'est une façon de créer des entrées dans la base de données parce qu'on a une quantité de mots, c'est énorme. Il y a 1000
enregistrements, on ne peut rien faire avec sans avoir une sorte d'entrée de quelqu'un qui parle de mots.
Qu'est-ce qu'on pourrait en faire?
Et ensuite, oui. vous avez rajouté un chapitre sur l'utilité du livre.
Éventuellement.
C'est ça.
Pas je le dis.
Je me dis qu'éventuellement, oui, on pourrait... oui, c'est des mots qu'on peut utiliser, dans la mesure où, quand je pense à ma propre littérature, souvent, quand je commence un chapitre, je peux commencer un chapitre par « Kwangaya muninga batiakayango misote ». Et puis je traduis le truc. Et puis tu as une note de bas de page où il y a la traduction. Ça veut dire que le pain du voisin, on ne jette pas, on ne lorgne pas après le pain du voisin. À partir de là, je développe. Mais le fait de rentrer comme ça, moi je le fais, disons, presque machinalement. Mais après, quand le bouquin sort et qu'on entend les critiques, on se rend compte que ça, c'est une porte d'entrée dans Kinshasa. L'histoire se déroule à Kinshasa. Le fait d'utiliser une langue. Qui est la langue de Kinshasa, et que bon, vous avez la traduction ou vous n'avez pas la traduction, mais même si vous n'avez pas la traduction, en fait, ça vous fait rentrer tout de suite, vous êtes tout de suite à Kin. Et toute la suite, tout ce que je peux dire après, la personne va, c'est écrit en français. Mais seulement le fait de dire déjà « Kwangaya muninga batia kayango misote », la démocratie chez vous ne fonctionne pas, mais tu as l'impression que ça, c'est la suite de cette phrase-là. Mais on rentre tout de suite dans le lingala. Alors j'imagine un auteur d'ici, le fait d'utiliser, parce que bon, c'est Schaerbeek, mais c'est Bruxelles aussi. Il faut voir Schaerbeek, il faut voir Bruxelles, il faut voir... voilà, c'est quand même plus vaste que Schaerbeek, je veux dire. Donc le fait déjà, si ces mots-là, pour moi, ça peut être utile. En tant qu'auteur, si demain je vais écrire un scénario qui se déroule ici à Bruxelles, en commençant déjà là-dedans, on est dans la ville. Qu'on le veuille ou pas, là on est en plein dans la matière. Moi, auteur, ça c'est l'opportunité que oui, moi je peux utiliser ceci. Comme d'autres peuvent l'utiliser. Et puis c'est aussi... Parce que quand je dis « Kwangaya muninga batia kayango misote », c'est le pain de manioc. Mais déjà, c'est quelque chose... Déjà, avec une petite phrase comme ça, on se rend compte tout de suite que l'aliment quotidien, c'est ce pain de manioc-là. Sinon, on n'en parlerait pas. Et quand on voit les choses qui sont ici, c'est des choses qui sont bien vivantes. On parlait de fleurs qui sont dans... Voilà, qui sont dans un... C'est là. Alors peut-être on voudra peut-être savoir après. On voudra peut-être savoir, tiens, ces fleurs se trouvent où, ça se trouve, voilà, quel est l'environnement de cette fleur. Déjà, quand on a parlé de l'étymologie, ça veut dire ça. Non, moi j'ai cru que ça veut dire ceci. Et voilà, et chacun a son interprétation, ça vous fait rentrer quelque part dans un monde qui est plus vaste que le mot lui-même. Mm-hmm. Moi je parle comme ça en tant qu'auteur. J'étais peut-être un peu long, excusez-moi.
C'est pas génial, hein? parce que donc toi tu as choisi certains mots,
oui.
Et ce qui m'a surpris, donc vous avez une copie, mais c'est en néerlandais, mais je veux bien traduire. Ça me fait penser à ce que tu dis sur le SMEC, le dernier mot que tu as choisi,
mm-hmm.
Que cette langue parallèle t'intéresse, que ton père est fan du dialecte bruxellois, soi-disant, tu as dit, du soi-disant dialecte, ouais. Bruxellois, que selon moi, personne ne le parle plus, ou quand même très peu de personnes. Moi, je veux dire, je alloue,
compare ça à ce que fait mon père.
Oui, non, oui, ok, peu importe. Mais toi, tu préfères les petits langages que tu appelles impurs, oui. Que mes enfants et tous les Bruxellois parlent entre eux, les formes mixtes rares, mais propres mots, leurs propres mots et un nouveau dialecte.
Oui. Oui, donc, oui, cette histoire de dialecte et de langue bruxelloise, elle me fait un peu chier. Parce que moi, je suis bruxelloise. Bon, je ne suis pas bruxelloise, je suis née à Louvain. Et je suis venue habiter à Bruxelles quand j'avais 5 ans. Donc, je peux dire que j'ai grandi à Bruxelles, c'est ma ville. C'est aussi la ville où j'ai parlé beaucoup avec d'autres Bruxellois. Et mon père, il est né à Bruxelles, il a vécu un an à Bruxelles, et puis il est parti en Hollande, et puis après, avec moi, il est revenu quand j'avais 5 ans, donc longtemps après. Et lui, on a eu toujours la même discussion, c'était un conflit, que moi, à l'école, j'étais par exemple à l'Athénée d'Etterbeek, on parlait un mélange bizarre de français et du néerlandais qui n'était pas du tout conforme au dialecte bruxellois qu'aimait mon père. Il est marié à une molenbeekoise et donc elle parle vraiment le molenbeekois des flamands des années 50, parce que c'est vraiment ça qu'elle parle. Et donc moi, il me disait toujours, mais non, ce que toi tu parles, c'est pas du bruxellois. Donc moi, ça a donné des conflits énormes. Parce que moi, j'ai toujours dit, mais non, c'est du bruxellois, parce que c'est le bruxellois de maintenant. Et le bruxellois de maintenant et de plus tard, ça va devenir de plus en plus divers, complexe, et avec de plus en plus des petites communautés qui ne se comprennent même pas entre eux. Et je retrouve ça maintenant, j'ai deux enfants, ils vont à une école soi-disant noire à Molenbeek, Virwin, et ils reviennent à la maison avec une langue que moi, je n'en ai rien à foutre, quoi, je ne comprends rien du tout. Je suis là, le grammaire est français, le grammaire est complètement français, donc les structures des phrases, elles sont françaises. À ça, ils ajoutent du néerlandais avec un accent berbère. Ah non, mais c'est comme ça, hein. C'est impressionnant. Et puis, à ça, ma fille, par exemple, elle ajoute dans sa classe, ils ajoutent des mots philippins. Parce qu'il y a des enfants des Philippines qui parlent 5 langues. Ils parlent l'espagnol, l'anglais, le dialecte des Philippines. Non, 4 langues. Et donc, le français et le néerlandais. Non, 5. Donc, ils mélangent ça et c'est une langue, quoi. C'est une forme de communiquer. Donc j'ai ce conflit, il est énorme parce que mon père, il fait partie van het hoe heet dat? Van die Brussels dialect. Hoe heet dat? Bah il fait partie par exemple du Créatif Complot qui chante des chansons en dialecte bruxellois et tout ça, et c'est très pur, tu vois, il y a des l'académie van het Brussels, et moi j'adore ce bruxellois qu'adore mon père aussi, je l'aime beaucoup. Voilà.
Oui. Pour le plaisir, mais en fait, entre eux, ils parlaient une langue.
Oui, moi j'aime beaucoup cette langue. Oui, parce que c'est la langue dans laquelle moi aussi, une partie, j'ai grandi dedans, parce que ma grand-mère, ma nouvelle mère, elle parlait ça, quoi. Mais je trouve que c'est je trouve ça un peu dommage de limiter le dialecte bruxellois à ça, quoi. D'en faire une Bible. Donc, moi, je n'aime pas. Donc c'est pour ça que j'ai choisi SMEC, parce que ça faisait penser pour moi à la langue qu'utilisent mes enfants. Mais des trucs, des mots.
Je vais te poser une question.
Oui.
Attends, oui, on est dans le micro.
Parce que moi j'avais le même problème aussi. J'ai un fils qui parle très bizarre. Lui, donc, il parle français. Il parle français parce qu'il a grandi ici. Il est venu ici très petit. Et puis, mais avec ses potes et tout, ils ont un langage où il y a un peu de lingala dedans, et puis il y a de l'arabe dedans, donc c'est très compliqué. Et moi, j'étais persuadé qu'il parlait comme ça tout le temps, mais mes filles m'ont dit, non, écoute, papa Jean, quand il est devant nous ici, il parle comme ça. Mais quand il doit parler à une administration, par exemple, il parle normalement. Est-ce que tes enfants, de temps en temps, ça leur arrive quand même de parler normalement?
Oui.
Le vrai français, le vrai néerlandais, quand même. Ça va, fou.
On a dû choisir les mots dans la liste.
Et c'est en néerlandais.
C'est en néerlandais. Donc c'est les. C'est comment parce que toi tu as choisi. Ou c'est toi qui as choisi, je sais pas.
Non, c'est pas moi.
Non, ça c'est ceux de la dernière fois là.
Oui. Ah, c'est de la dernière fois. Ah, oui. C'est maintenant, c'est moi.
L'autre feuille, c'est moi. L'autre feuille, c'est moi. Mais moi, en fait,
mais je dois peut-être expliquer en français pourquoi j'ai. Donc,
vous êtes allé sur le terrain.
Oui, désolé, j'aurais dû vous informer plus, je crois, parce que je.
Oui. Je suis un peu perdu. Oui. Donc vous êtes allé sur le terrain.
Oui.
Vous avez rencontré des gens.
Oui.
Vous leur avez demandé un mot ou.
Non, on a eu des conversations.
Oui.
Et quand dans la conversation il y avait un mot qu'on ne comprenait pas très bien ou qui faisait quelque chose, hein, qui dit, ah, c'est un mot bizarre ou un mot pas très commun ou un
en
mot.
Français.
On a eu les conversations en français parce que c'est la langue qui lie tout le monde dans ce quartier. Mais les mots, c'est des mots qui souvent ressortent d'une langue maternelle de la personne avec qui on a parlé ou des groupes. On a eu des discussions en groupe aussi. Et donc, la personne a chaque fois donné la définition de ce mot et on a le contexte dans lequel ce mot est apparu.
Et donc, vous avez pris un mot au vol. Vous lui avez demandé une explication,
non,
un
on
commentaire.
On a eu une conversation. Donc, le mot sort dans un contexte.
Oui.
Ce n'est pas un mot qu'on...
Oui,
ok. Et dans le contexte, oui, la personne a expliqué.
Elle a expliqué. Oui. Et donc, aujourd'hui, vous vous trouvez avec 500 mots.
Oui.
500 commentaires.
Oui.
Et donc, vous allez choisir un certain nombre de mots pour le livre.
Pour la discussion de ce soir. Donc, la sélection pour le livre, c'est différent. C'est surtout des mots qui font quelque chose à l'imaginaire. Parce qu'on ne peut pas parler de 500 mots ni faire la sélection du dictionnaire ici ce soir. Donc, on a choisi certains mots et on discute à partir de ces mots. Non, ce n'est pas clair. Mais peut-être vous suivez un tout petit peu et si dans 15 minutes c'est encore, je peux réexpliquer. Mais je crois que ça va devenir clair.
Vous avez 500 mots.
On a 500 mots en ligne, mais eux, ils ont choisi 5 mots.
Oui, après vous choisissez.
Pour ce soir.
Ah, seulement pour ce soir.
Pour la discussion de ce soir. Pour nourrir la discussion de ce soir.
Et voir où ces mots vont nous mener.
Oui, voilà.
On voulait mettre un peu une thématique. La thématique, c'était c'est la fiction. Parce que, voilà, par exemple, Emeline, à partir des mots du dictionnaire, elle en a choisi quelques-uns, elle a écrit des livres, des histoires, elle a écrit des fictions à partir des mots qu'on a enregistrés ici, par exemple, tu vois. Et donc, notre première idée de rencontre, c'était aussi le degré de fiction dans les mots qu'on a récoltés. Parce qu'un mot, ça nous emmène très loin, c'est pas juste un dictionnaire, ça veut dire ça. Ça nous emmène dans des histoires, l'histoire individuelle de la personne, l'histoire de Skarbek, l'histoire de Bruxelles, l'histoire de plein... Tu vois, ça va, on part du particulier, mais ça va très vite dans le général. Voilà. Comment ?
C'est un peu si vous connaissez Freddy Smith, qu'est-ce que...
Mais tu, oui,
non, c'est... Comprends bien qu'on puisse,
en fait...
Rêver à partir d'un mot.
Oui, en fait, c'est un peu, je pense que ce qu'on essaye ce soir, c'est ce que fait Freddy Smekes, qui est spécialiste du dialecte bruxellois. Et il écrit pour Bruxelles des Ubiques. Vous connaissez Bruxelles des Ubiques ?
Oui, je crois que j'ai vu.
Oui, le journal, c'est un journal néerlandophone de Bruxelles. L'agenda est en trois langues. C'est assez bonne qualité. Il y a un monsieur qui écrit dedans sur les mots du dialecte classique bruxellois. Et à partir du mot, il décrit une ambiance. Et il décrit aussi le caractère bruxellois, en fait. Et donc, il fait... En fait, il fait aussi une sorte de dictionnaire, mais chaque semaine. Donc, et c'est un peu ça que je pense, le but.
Oui.
Aussi.
Aussi, oui.
Pour expliquer un peu.
On ne pourrait pas entendre des textes.
Oui, peut-être c'est une bonne idée. Ça donne une idée de...
Elle a été mise en onde par quelqu'un qui sait le faire. Donc... Mais y a deux degrés que moi je voudrais juste rappeler à Paul, c'est que il y a deux questions, enfin, en tout cas moi j'entends deux questions. Il y a la question de la fiction, de la fictionnalisation, de la possible fiction des mots qui sont déjà là. Puis il y a moi ce que j'ai fait, c'est pas c'est encore un autre degré qui est ma propre fiction par rapport à ces mots. Donc elle, enfin, je parlais de ça dans ce que j'ai écrit dans le petit texte que j'ai essayé de dire, c'est que j'ai appelé ça la préfiction. Donc c'est en fait ce qu'on capte directement, ce qui nous rentre dans les tripes ou dans l'âme ou peu importe. Donc voilà, je vous dis Cuvertine, voilà, il y a cette évocation directe. Et puis après il y a la transformation vers ce que j'ai appelé la fictionnalisation, où là on est dans la narration, dans une histoire, où là c'est finalement pas le mot. Enfin, il y a une évocation, mais c'est le mot devient un autre mot par rapport à ce que moi j'en fais, quoi.
Voilà, donc il y a le mot
par rapport à moi,
le commentaire,
et puis
le mot,
une
le
œuvre.
Commentaire et une œuvre voilà. De fiction.
C'est pas donc, systématique.
C'est dans mon cas. Oui.
Enfin, c'est pas systématique. Cas, elle a écrit quoi, t'as écrit 10 textes, 8 textes, 8 ou 10. Elle a choisi. C'est pas pour chaque mot.
Ah, c'est pas pour chaque...
Non.
Et comment est venue s'ajouter cette histoire de fiction?
Ah. C'est pour toi, Anne.
Oui, parce que oui, parce que quand bah, ça fait un bout de temps qu'on est avec ce projet, et il y a des mots qui pour moi ils ont un sens, dans une langue, dans une langue particulière. Cuvertine, ça vient du turc, par exemple. Mais pour moi. Qui ne sait pas le turc, Cuvertine peut être un personnage d'un récit. Ou peut être Cuvertine. Ou comme toi tu as dit, ça peut être une ville ou une femme. Oui. C'est, beaucoup de ces mots ont une rythmique, une sonorité, et sont des êtres en soi, des entités en soi, en fait. Et donc, ça, de là est venue cette idée de un mot peut être une porte d'entrée à une histoire. Cette histoire peut être réelle, parce que dans ces quartiers-ci, cette histoire est réelle. Mais cette histoire peut être aussi fictionnelle, ou pas. Ça, et à quoi ça sert, et pourquoi on l'utiliserait, et voilà. Je voulais ouvrir la discussion sur la fiction, ou l'outil de la fiction, le sens de la fiction, et comment ces mots... font appel à ça.
Donc, peut-être qu'il faut aussi introduire un autre terme. Si toi tu parles de préfiction, peut-être on peut aussi penser de post-fiction. Donc quelles sont les implications des mots qu'on invente, non, oui, ou qui ne sont pas là, ou qui apparaissent dans un contexte un peu bizarre, je ne sais pas, mais quels sont les effets pour la réalité qui est encore là? Parce que ça, on voit beaucoup, on a vu les mots comme baguette, pain français, tu te souviens, qui est plus proche, qui sont bien expliqués. Je ne me souviens pas exactement comment, mais il y a un gars qui explique la différence entre une baguette et un pain français. Et il rentre dans une histoire, je ne sais pas, jamais vu, entendu parler de maïs qui est moulu et qui change la couleur de pain français. Et une baguette, c'est complètement différent parce que c'est plus large et plus long. Et tu penses vraiment, mais toi, tu es où? Et tu es, ouais, j'adore le goût du pain français et pas contre le baguette. Bon, ça ne me fait rien. Et, ça tient pas parce que ça part très vite, et donc il parle vraiment de son propre regard du pain, ouais. Et je reconnais rien du tout, tu vois, c'est vrai. Bon, pour moi c'est bon, ils sont presque pareils, c'est la même chose. Donc c'est aussi ça j'adore aussi, que ce sont des mots qui sont pas particuliers, qui sont très normaux, mais qui ont une signification complètement différente pour différents gens
qui habitent le même quartier.
Oui.
Scarbeck ne joue aucun rôle, finalement.
Si.
Ah non, c'est juste le fait que les gens interrogés, oui, les mots sont récoltés là en Scarbeck.
Oui, parce que... autour de la cage aux ours.
Voilà, autour de la cage aux ours.
Ouais.
Mais Scarbeck joue un rôle, parce que ces gens-là, maintenant, je veux dire, on a donné deux exemples, c'est des, ou trois. C'est un exemple d'un jeune scarbécois, Smex, qui utilise ce mot pour indiquer quelqu'un qui n'est pas un flamand. C'est un flamand ou un Smex?
Non.
Je crois, attends,
c'est plus complexe que ça.
Oui.
C'est très complexe. C'est quelqu'un venu du Maroc,
ah, oui,
qui veut être un flamand,
mais qui n'arrive pas à parler comme les Flamands. Mais ça, c'est important parce que ça joue. Le mot flamand, en fait, schmeck, flamand, flamand bruxellois, flamand francophone, ça tout, ça, c'est très subtil. Hein. Mm. C'est très subtil. Parce qu'un flamand à Molenbeek, un flamand, c'est un mec avec des cheveux lisses. Non, mais attends. C'est un mec avec des cheveux lisses, style le chanteur pop jeune Justin Bieber, qui va à De Marecta. Et qui porte des pantalons qui sont trop longs. Et il déteste. Et par exemple, non, mais c'est important parce que, ouais, et c'est important parce qu'il y a même un ami de ma fille dans la classe qui a dû changer d'école parce qu'il insultait tout le temps de flamand. Et il était vraiment très flamand. Tu vois, il avait les cheveux style bazar, style. Bah oui, il faisait du cirque de Marecta. Tu vois, c'est vraiment. Il était vraiment. Ses parents, lui, il n'a pas le choix. Il était dans le système flamand branché qui va habiter Molenbeek parce que c'est moins cher, mais c'est aussi très cool. Et donc, il a été tellement repoussé avec le mot flamand. Donc, les mots comme schmeck, flamand, bruxellois, arabe, ça tous. Et chaque quartier, je pense, a un significatif différent du mot, quoi. Mm. Donc c'est quand même, je trouve ça des mots assez fascinants, parce que pour moi c'est la première fois de voir le mot flamand de cette façon-là. Pour moi les flamands c'est hors de Bruxelles. C'est les gens avec beaucoup d'argent qui habitent les villages en Flandre. Et qui sont anti-francophones ou quelque chose comme ça. Dans ma tête c'était comme ça, parce que par exemple moi je me trouve pas flamande, je suis née à Louvain, je suis complètement néerlandophone dans la base, mais je me sens pas du tout flamande. Mais pour quelqu'un d'autre, je suis très flamande. Donc c'est vraiment, je trouve ça, c'est pour ça que ce dictionnaire, ça me fascine. Parce que ça donne un miroir de ce quartier, de comment les gens voient le monde.
Donc c'est fait pour un public cultivé, quoi.
Oui.
C'est fait, le livre est fait pour un public cultivé.
Tout le monde a cultivé.
Voilà, un public qui lit et qui ouais. S'intéresse aux mots et autour du mot. Et c'est un livre très particulier. Quoi.
Ceux qui ont donné des mots, ils vont recevoir le livre aussi. Ils seront aussi intéressés d'abord à leurs mots
pour
voir s'il y a dedans.
C'est
normal, leur voix est sur le site, donc, parce que sur normal, le site c'est sonore. Donc c'est aussi, c'est pas dans l'idée, il faut être cultivé pour pouvoir lire le livre.
Je sais parce que je dis cultivé.
Ah non, je discute.
Moi je pense même qu'un des dictionnaires comme ça, ça pourrait être très utile dans les écoles, dans une classe pour travailler avec les enfants sur certains mots, pour travailler aussi, parce qu'ils doivent, tu vois, les enfants ils doivent cohabiter avec beaucoup de cultures différentes. Et pour thématiser leurs idées, c'est très pratique d'avoir un dictionnaire comme ça.
Oui, je dis pense. Pas le contraire, mais vous dites justement école, c'est ça. Mmh. École, public cultivé.
Mais tout le monde va à l'école. Hein,
ouais. C'est obligé.
C'est obligé, hein.
Donc, non. Vous réagissez au mot cultivé. Il y a des livres qui sont faits pour. Un public cultivé, public spécialisé.
Parce que
je réagis en libraire. C'est-à-dire, c'est fait pour des gens qui sont intéressés ou qui lisent. On voit bien qu'il faut quand même être.
C'est exactement ça que je dis non. Je suis pas d'accord. Je suis absolument d'accord. Bon, okay. Non, c'est important parce que ça serait dommage que ce serait seulement pour un public cultivé. Parce que je pense que c'est un outil très, très, très pratique, justement, pour utiliser chez des jeunes pas cultivés. D'utiliser dans les écoles, parce que c'est des mots qu'ils peuvent reconnaître, c'est leur langue. C'est pas ma langue, ce dictionnaire, j'ai presque rien reconnu. J'ai reconnu Pipi Lankos. Parce que j'ai pris des mots que je connaissais. Consciemment, parce que j'étais devant un dictionnaire, je me disais, mais je connais rien de tout de ces mots. C'est pas mes mots. Donc je pense
là,
que.
On parle pas des mots. J'entends Paul un peu aussi. On parle pas des mots, on parle de l'objet dictionnaire. Et je pense que c'est là que Paul. Enfin, si je peux me permettre. J'ai l'impression que c'est le livre comment le faire circuler, à qui va s'adresser, et quels sont, mais non, mais voilà, qui sont les médias entre le livre et les écoles, etc., et comment ça va être utilisé, parce que les mots, évidemment que les mots ils vont être connus, mais voilà, comment tu apportes le dictionnaire. Enfin, moi je travaille en école par exemple avec des ateliers d'écriture, le dictionnaire je ne peux pas l'amener comme ça. Il faut un accompagnement autour, tu vois. Je ne peux pas le laisser là. Les gamins ne vont absolument pas y toucher. Faut, même si tu leur dis, ah, il y a le mot de ton frère, de ton cousin, de ta mère, ils n'en ont rien à battre, quoi. Donc, voilà, il faut un accompagnement. Et cet accompagnement sera avec une réflexion derrière. Donc, moi, j'entends dans ça, cultiver, évidemment, tout le monde est cultivé. On a toute sa culture, mais on a tous notre culture. Mais quand, il y a un rapport élitiste qui, ou élitique qu'il ne faudrait pas avoir par rapport à ce livre. C'est tout. Et moi, j'entends ça aussi dans cette question de l'objet. Pas des mots, pas de la démarche, pas du livre.
Est-ce que tu concrétises un peu plus
qu'est-ce que ça pourrait être, la médiation entre le livre et le public?
Il faut voir l'objet du livre. Là, l'objet du livre, on est en train de... Oui, après, on peut parler des profs, on peut parler des enseignants, on peut parler des éducateurs, on peut parler de tous ces gens-là, etc. Le rapport à la langue, en tout cas dans mon expérience par rapport aux profs et aux enseignants, que ce soit en primaire ou en secondaire, il y a une peur de cette langue autre, de cette langue à côté. Tu parlais de forme impure, le mot impur est typiquement moral, je ne dis pas que tu l'as employé dans ce sens-là, mais c'est quand même, voilà, la forme impure, c'est quand même quelque chose qui nous rapproche à la morale de notre pureté. Et donc voilà, donc moi je si tu veux, il y a eu des, par exemple, écrire des chansons avec les gamins, écrire des poèmes avec les gamins, il y a une forme de la langue française. Moi je ne suis pas néerlandophone, je ne pratique pas le néerlandais, mais en tout cas avec les enseignants francophones, il y a une idée du français qui doit être juste, si pas pur, juste, parce que c'est un outil, parce que c'est un bagage, parce qu'il faut que ces gamins sortent de leur langue, etc. Même avec les meilleures intentions du monde. Enfin, je ne parle pas de francisation ou francicité à tout prix, etc. Oui, peut-être. Moi, je parle de... Alors là, je me remets dans mon contexte d'animateur d'atelier d'écriture. Voilà, et c'est souvent ça. C'est-à-dire qu'en effet, les gens sont contents. Enfin, j'ai eu plein d'exemples où quand on met des mots turcs, enfin, peu importe, il y a une forme de reconnaissance, mais il ne faudrait pas aller trop loin. Quand même, hein, qu'il y a quand même un petit barrage à un moment pour dire, ok, dans une chanson ça va passer, dans un poème, allez on y va, quoi. Mais, enfin voilà, il y a quand même le mais à un moment, on doit traduire le mot par exemple, il n'y a pas des mots qui peuvent rester comme ça.
C'est intéressant parce que, c'est très intéressant je trouve, parce que moi je suis bilingue. Hein,
et moi je suis française aussi.
Et donc je publie en même temps en français et en néerlandais, et je vois cette différence. Les Français, ils sont très puristes. Et tout doit être traduit. Un poème, parce que par exemple, moi j'ai utilisé 4 poèmes dans mon livre que je viens de publier. Donc c'est un poème en anglais, un poème en espagnol, un poème en irlandais, un poème en français. Et pour les Français, ils n'arrêtaient pas de taper sur le fait de traduire ces poèmes. Et moi je me disais, mais je m'en fous. Ils doivent pas, les gens ne doivent pas forcément comprendre, c'est aussi le son qui est important, la musicalité du poème qui est important pour ce livre, parce que moi je travaille en images et en mots, donc pour moi c'est, le mot c'est pas toujours le plus important, de temps en temps si. Et donc c'était vraiment une différence énorme entre les néerlandophones et les francophones. Les néerlandophones, on a laissé tout dans la langue originale, il n'y avait aucun problème, et j'ai dû me battre 6 mois pour avoir les poèmes en original, version originale, avec une petite traduction à côté. Mais en néerlandais, il n'y a même pas la traduction.
Et on en arrive à cette question de la fiction, et la question de l'abstraction du mot, parce que ça vient aussi dans ça. C'est qu'il y a une abstraction du mot quand l'enfant le dit, qui n'est évidemment pas le même que ses parents disent, mais qui est évidemment... Il y a 10 000 traductions entre le mot étymologiquement parlant, on va l'appeler comment, originel, et puis ce que le gamin dit en classe, par exemple. Donc il y a déjà un trajet hallucinant. Et donc quand le prof reçoit ça, le prof qui est porteur, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça, mais qui est porteur d'un savoir, il y a une confrontation, il y a un frottement entre ce que le gamin dit, qui va devoir être traduit soit pour la classe, soit pour le prof qui ne le comprend pas, soit pour le prof qui a peur, soit pour le prof qui est ok, super ouvert, mais qui trouve que le mot n'a pas sa place là. Et donc il y a comment on va dire ça ? le mot en tant que tel doit être traduit pour être compris. Et il y a l'abstraction du mot. Donc c'est-à-dire qu'il y a ce... Je suis en train de me perdre sur l'idée de l'abstraction, je suis revenue ailleurs. Je vais revenir. Oui. Sur l'abstraction. Non, je voulais... Oui,
oui, monsieur. Moi, j'ai une question pour tout le monde. Est-ce que vous êtes... Comment dire grandis avec votre langue maternelle ou avec une autre langue? Parce que moi, je suis hollandais, mais je ne suis pas du tout... dans ma famille, il n'y avait personne qui parlait néerlandais. Il y avait une autre langue, c'est l'accent local. Et du début, il y avait toujours cette friction entre la langue de l'école et la langue de la maison et les langues avec différents groupes des amis. Ouais. Ce sont des différents langages. Est-ce que pour vous, c'est pareil ou c'est...
Oui, je peux me rattacher un peu ce qu'on vient de dire. Ben, moi, je suis grandie en parlant absolument seulement italien, mais ma grand-mère, elle parlait le dialecte de ma ville, donc c'est un dialecte qui n'a presque rien à faire avec l'italien. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, en fait, aussi dans les mots qui sont dans les dictionnaires. Les mots que j'avais choisi, c'était la marilingue. Et j'adorais ces mots parce que d'abord c'est super poétique, parce que la marilingue, ça fait penser à une danse, une femme, je ne sais pas, quelque chose d'exotique et tout, c'est très musical, je trouve. Mais en italien, effectivement, ça revient sur la langue maternelle en français, mais en italien, on dit la mère langue. Et la mère langue, ce n'est pas seulement la langue de la mère, donc évidemment, mais c'est aussi la langue qui est la plus utilisée dans un environnement spécifique. Et donc, ça veut dire que je me demandais, c'est quoi la mère langue d'Escarbet, qu'en fait, ça peut être cette langue qui est si mélangée, si comme elle apparaît un peu dans les dictionnaires. Bon, ça, c'était un peu ma réflexion. Et la chose qui me faisait aussi, c'était très curieux aussi, qu'on a intégré dans le dictionnaire un mot, toujours de provenance italienne, mais comme tu disais, ce sont les mots qui me parlaient le plus, parce que plein de mots je ne connaissais pas du tout aussi, donc ça me restait un peu comme ça. C'était qu'on avait mis les mots frulin, et frulin, c'est quelqu'un spécifique d'une région, en fait. Donc, ce n'est pas simplement un italien, mais c'est un italien qui vient d'une région particulière. Et ça, je trouve que c'est très, très frappant, parce que quand je suis arrivée ici en Belgique, je travaillais pour une partie de mon temps dans un supermarché italien. Il y avait plein d'émigrés qui venaient dans les supermarchés, donc avec lesquels j'ai parlé, et qui parlaient ou français standard ou dialecte régional italien, mais pas du tout l'italien. Et ça, c'était vraiment très frappant, parce qu'en fait, ils mélangeaient ces français qui étaient plus ou moins standard, parce qu'ils l'ont appris bon, en étant ici, peut-être avec des accents régionaux aussi. S'ils venaient de Charleroi ou de Liège, ça pouvait aussi changer, j'imagine. Ça, je n'arrive pas moi-même à comprendre ça. Mais en mélangeant avec des mots qui sortaient du dialecte et qui étaient super différents d'un dialecte du nord, d'un dialecte du sud, d'un dialecte d'une autre région. Et donc ça, c'était aussi une très grande richesse qui n'était pas du tout... que je ne pouvais pas imaginer, parce que pour moi, bon, moi je suis grandie à l'école avec l'italien standard et tout. Et donc c'était très, très frappant ça. Et je me demandais peut-être que... J'avais l'impression parfois aussi que beaucoup de mots... Ça, je lance un peu cette idée. Beaucoup de mots arabes ou congolais qui sont aussi dans les dictionnaires. Je me demande s'ils sont des mots vraiment, par exemple, congolais ou s'ils font référence à une partie spécifique du Congo, à une ville, à une situation qui est encore plus spécifique par rapport à une nationalité, je veux dire. Et sa spécificité de la langue, c'est celle que, comme tu disais avant, en fait, ce qui m'a frappé aussi, que je trouve très important dans l'écriture et dans la fiction, parce que quand tu utilises un mot qui est super spécifique, ça te fait entrer dans un mot qui est tout de suite quelque chose d'autre. Si tu parles simplement de pain, on pourrait prendre ce qu'on disait avant, bon, c'est du pain, ça peut être n'importe quoi, mais si tu parles d'une baguette ou j'avais repris des mots qui étaient très, très rigolos, que j'ai trouvé comme colo, foufou, pelmenis, bodin, qui sont tous des mots de nourriture. Si tu mets ces mots dans une histoire, ça prend toute une autre relevance. Si la personne les connaît, mais même si la personne ne les connaît pas, parce que si quelqu'un me dit « bodink », ça me fait penser à toute une chose un peu. Donc, c'est ça que je trouve très, très intéressant. Voilà.
Je crois que ça, c'est l'intérêt des mots, je crois.
Quand tu parlais du mot flamand, là, tout à l'heure, quand on parlait du mot flamand, j'avais écrit ce mot dans un texte qui était paru au Beaux-Arts. Il y avait un recueil de textes comme ça, avec une vingtaine d'écrivains africains pour célébrer les cinquantenaires des indépendances en Afrique. Parce qu'il y avait 17 pays indépendants en 60. Et à un moment donné, dans un texte que j'avais écrit, c'était écrit un type qui était en prison, il dit « Le temps des flamands, c'est fini ». Pour moi, c'était évident de dire le temps des flamands. Et puis, mais l'éditeur de l'ouvrage en question, c'est un Brésilien. Il me dit, écoute, qu'est-ce que ça veut dire ça, le temps des flamands, c'est fini? Et moi, je croyais que quelque chose, c'était évident de dire le temps des flamands, c'est fini pour un Congolais en 1960. Et en fait, non, c'est pas si évident que ça. C'est parce que le temps de la colonisation, on dit pas le temps de la colonisation à Lingala. Le mot colonisation, d'ailleurs, n'existe pas. Mais on dit le temps des flamands. Mais alors, oui, mais attendez, oui. Oui, mais seulement ce qui est terrible, c'est que ça revient, c'est pas là-bas qu'on... Nous, en fait, on a dit le temps des flamands, pourquoi? En fait, ça revient, on revient ici à la situation entre les francophones et les néerlandophones ici dans ce pays. Quand je vous parle d'avant l'indépendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le type qui était devant, le Belge qui était devant le Congolais, le contremaître, le sergent, le caporal, c'était un flamand. Le général... Le grand boss, le PDG, c'était un francophone.
Ah ouais?
Ah ouais? Ah ouais, c'est ça qui est terrible. Alors à ce moment-là, on se retrouve dans une situation qui, pour nous, c'était évident de trouver un flamand devant nous. Mais en fait, il y avait une raison à ça. Il y avait une raison, c'est que l'administrateur de territoire, le grand patron, c'était un francophone qu'on ne voyait pas. Et nous, on voyait qui? Le flamand, mais en fait, qui ne commandait pas, qui était seulement le mec qui était devant toi. Et entre eux, ils parlaient flamand. Alors pour nous, c'était le temps des flamands. C'est assez, voilà. Et puis à ce moment-là, bon, du coup, j'ai dû lui raconter toute l'histoire. Et du coup, ça lui donnait une autre vision de la Belgique. Quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé et que moi-même, j'y pensais même pas avant qu'il me pose la question. Pour moi, c'était évident de dire le temps des flamands. Mais c'est quand il m'a posé la question, je me suis dit, merde, c'est vrai ça. Il y avait ce truc-là. Voilà.
Et toi, tu as répercuté le mot lingalais dans le dictionnaire?
Il y en a un seul.
Pour répondre un peu à ce que...
Tous les mots lingala m'ont frappé, comme le mot foufou, mais il y a un mot que moi j'ai noté ici, c'est malangwa. Malangwa, c'est un poisson. Mais je ne sais pas dans quel contexte, ici à Scarbec, on l'utilise. Donc, je serais curieux de... C'est un poisson assez courant, qui est très bon. C'est super en papillote, comme ça, vous mettez dans une feuille de banane avec un oignon, une tomate, vous fermez, vous mettez sur une braise pendant 6 heures. Ou 12 heures, et quand vous mangez ça, vous mourrez. Voilà, mais c'est un poisson. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire dans la région ici de Scarbec.
C'est ça, c'est un poisson. On l'a enregistré au magasin de nourriture, là, du Cameroun plutôt. C'est plutôt un magasin camerounais, Manco. Et le malangwa, c'était... je sais pas si tu as entendu ce qu'il raconte, le monsieur. En fait, il nous explique que voilà, c'est un poisson qui est beaucoup cuisiné, notamment au Cameroun, mais sûrement dans d'autres régions d'Afrique. Mais que là, celui qui vend ici, il vient pas d'Afrique, parce qu'en Afrique, ça coûterait beaucoup trop cher de le faire venir ici, parce que c'est préparé de manière artisanale. Ils mettent de la terre ou je sais pas quoi. Puis voilà, bon. Donc... Et les poissons qui vendent ici du malangwa, en fait, ils viennent pas du tout d'Afrique, ils viennent du Suriname.
Il vient du Suriname.
Voilà, c'est ça. Et ça, c'était terrible qu'ils nous racontent ça, quoi. Voilà. Et les poissons qui arrivent ici, en plus, comme on est donc en Europe, il y a des normes d'hygiène spéciales. Et en Afrique, les poissons, ils sont à l'air libre, comme ça, tu peux le toucher, ta. Ici, c'est pas possible. C'est dans des bacs réfrigérés et t'as pas le droit de toucher le poisson. Et donc, à travers ce mot-là, il nous raconte tout un bazar.
Donc, si j'ai bien compris, vous avez récolté un choix subjectif de mots. Et donc, à un certain moment, vous avez appliqué l'idée d'évasion à ce choix de mots.
Évasion.
Évasion, fiction.
Ah oui.
Donc, ce sont des mots récoltés à Scarbec, ou à Scarbec.
Oui, cage aux ours.
Et qui vous emmènent autre part.
Oui.
Cette idée de... C'est ça?
L'idée, mais... Ouais.
Je crois que la fiction est beaucoup plus que... Oui, c'est ça. La fiction, parfois, est beaucoup plus que juste s'évader. Je crois que ça peut être un outil pour soit se connaître soi ou pour se manier dans une réalité. Pardon.
Peut-être pour regarder quelle tête a son voisin.
Non, je disais qu'en dehors de l'évasion, ça pouvait peut-être nous ramener ici, essayer de voir un peu à quoi ressemblait son voisin, qu'est-ce qu'il mange, quel est son accent, s'intéresser peut-être un peu plus à ce qui se passe ici. Moi, je vois ça plutôt ça. Parce que bon, déjà, avec tous ces mots qui viennent de tous les pays, parce qu'ils sont tous teintés de quelque chose. Il y en a qui sont teintés vraiment du terroir bruxellois ou scarbécois, mais il y en a d'autres qui viennent de loin, comme ce malangwa, mais c'est pas si loin que ça, non. Et ça permet de, au lieu de passer par le Congo, le Cameroun, on arrive au Suriname et la Hollande, c'est pas mal. Comme périple, là on est dans le voyage. Mais aussi, c'est aussi pour dire que bon, au lieu de prendre un véritable poisson qui vient de Hollande, on préfère manger un poisson qui vient de chez soi, ou qui vient pas de chez soi, mais qui a le nom d'un poisson de chez soi, et il y a la nostalgie aussi. Parce qu'on voit dans ces mots, il y a la nostalgie qui est là, peut-être même c'est des gamins qui ont grandi ici, mais il y a quand même cette nostalgie de revenir à la langue du... Nous on appelle ça la bouche du village. Voilà, la bouche du village, c'est la langue qui vous nourrit. Quelque part. Et on a besoin peut-être de temps en temps d'évoquer les malangois, invoquer, dire des mots en arabe, dire des mots en turc. Je crois qu'on a besoin de ça. L'être humain a besoin de ça, surtout quand il est loin. Je crois que c'est... Parce que ce malangois vient de Hollande, mais quand je le mange, j'ai l'impression qu'il vient du Congo. Vous voyez ce que je veux dire? Ben oui. Et je mange avec du foufou, mais c'est même pas du vrai foufou. C'est de la semoule de maïs et du fécule de pomme de terre. Je mélange et ça ressemble à du foufou. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ressemble à... Et quand vous goûtez, c'est du foufou. C'est pas du foufou. Le malangwa, il est même pas... Il est hollandais. Mais c'est important. Je crois que c'est important pour l'étranger, quoi.
Je vais lire malangwa, là. Malangwa, c'est ça? Et je vais avoir toute cette émotion que vous exprimez en ce moment. C'est ça le but que vous recherchez.
C'est pas encore très clair, mais c'est peut-être un début possible. Parce que
dans ce sens-là, ça m'intéresse, votre point de vue. Parce que si, et je m'excuse si j'ai, vous aviez tu avais l'impression que j'étais agressive. C'était mon enthousiasme, je crois. Mais oui, ça. Moi, je me questionne par rapport à ce dictionnaire et aux mots, par rapport aux mots qu'on a choisis. C'est tout à fait subjectif. Ça a été intuitif pendant les conversations. Donc, c'est très fort influencé par les gens qui ont mené les conversations. Et donc, du coup, c'est important de prendre distance de ça, de le tester, disons, de l'ouvrir vers d'autres cerveaux. Mais quand j'ai réagi au mot cultivé, c'est aussi parce que je trouve que c'est très important qu'on crée un livre qui retourne aussi aux gens qui nous ont offert ces mots. Tu vois, pour nous, les mots, et ça c'est vrai que pour un lecteur qui reçoit le livre, ce sera différent, mais pour nous, le mot malangwa, c'est pas seulement un poisson, non, c'est tout un magasin qui se trouve avec un couple dedans, qui nous a raconté leur histoire. Donc,
c'est un livre pour Happy Few.
Comment?
Oh là là, qu'est-ce qu'on va jouir là?
J'ai pas compris.
C'est un livre pour Happy Few.
Happy Few. Ah non, non, justement, ça devrait être un livre. Ça ne devrait pas l'être, c'est pour ça qu'on est là, pour l'ouvrir.
Oui. Alors donc, c'est un livre qui est gratuit, qui est distribué, qui est fait pour un public cultivé, qui va être illustré, c'est ça, illustré
avec
par vous peut-être, avec des photos.
Avec des photos, certainement.
Un livre, donc, qui va faire bonne impression.
Peut-être pas, parce que quand on a présenté le projet à l'échevine de la culture, qui est aussi bourgmestre remplaçante, elle n'a pas aimé. C'est pas, ça ne donne pour elle, ça ne donne pas une bonne impression parce qu'il y a plein de mots dedans qui sont des slangs pour la police. Argot.
C'est dire le mot police en plein.
Je n'ai pas étonné d'abord.
Moi, pas. Moi, je réponds à votre suggestion.
Vous avez un budget pour ça?
Oui.
Coupé. Ah,
non. Paul, on n'arrête pas. On n'arrête pas.
Mais c'est bien. Mais j'aimerais bien savoir ce que vous imaginez comme livre avec ça.
C'est un livre très sensuel, à l'intérieur et à l'extérieur. Donc c'est un livre qui est bien fait. Donc il faut avoir un papier couleur, couverture illustrée. Un livre qui se sent bien dans la main, à l'intérieur comme à l'extérieur.
Parce que le contenu est sensoriel?
Oui, je trouve, oui. Sensuel, oui.
Sensoriel, il faudra mettre de l'odorama.
Alors,
voilà, tu vois.
Je
culotte de japonaise.
Ce que vous me racontez là, c'est le contraire de l'affiche qui a été faite là. Vous avez fait une affiche, la langue scarbécoise. C'est le contraire, c'est à l'antithèse.
Il n'est pas censé l'affiche, je la
connais. Non, non, je...
De cadre.
L'antithèse.
Le contraire, l'opposé.
Il y avait quoi sur cette affiche pour ce soir?
Rien, c'était illisible, c'était...
Elle n'est pas sensuelle, l'affiche.
Pas du tout. C'était vert, illisible.
Ça me rend curieux de savoir qu'est-ce que vous pensez d'un livre sans...
Il l'a dit à Pierre.
Oui, mais...
Oui, peut-être. Donc, il faut...
Si tu parles, il faut vraiment... Que tu
je vous écoute et nous avons tous, je vous écoute et comme vous, j'ai le sens des mots et en plus de ça, j'ai cette sensualité vis-à-vis des mots. Moi, je l'ai un peu moins parce que, pour des raisons qui n'ont rien à faire ici. Mais je trouve qu'il y a effectivement un plaisir avec les mots. Tout simplement, vous prenez un dictionnaire, vous pouvez jouir avec un dictionnaire tout simple. Et en plus de ça, ici, c'est beaucoup plus riche. C'est dans tous les sens du terme.
Donc, pour avoir un livre sensuel,
il faut, je dis, la couverture, les illustrations, de la couleur, du papier, de caractère, il faut réfléchir. Et bien sûr, ça suppose que même si on n'a pas un budget, on peut arriver à faire un livre intéressant. Plus que le contenu, au-delà, l'idée de jouir de tous ces mots et de tout l'intérieur. Comme lui parle du poisson, là, c'est riche. Donc, un beau livre, mais en format de poche, par exemple, mais bien fait, un livre bien fait. En plus de ça, il est gratuit, il fera plaisir à garder, ou à consulter.
Oui, c'est marrant parce qu'on a juste pensé d'un livre de poche, un dico que tu peux rendre dans ta poche.
Oui, mais quand même, non, ça c'est le côté sympa, mais faire aller un peu dans le détail, voir un peu ce qu'on peut faire à côté. Quoi.
Tu peux garder le micro, c'est quand tu parles, il faut vraiment que tu le mettes, c'est un micro-voix, il faut que tu le mettes vraiment près de ta bouche, Paul. Paul, quand tu parles, vraiment tu mettes le micro près. Tu sais, c'est parce qu'après, comme ça, on peut transcrire, c'est pas pour diffuser. Hein, c'est
photos.
Voilà. Il y a plein d'écritures là.
Non, mais il faut pas lire, c'est pas dans le fichier.
Oui, c'est... Voilà.
On est dans un rapport
conceptuel
aussi.
Attends, vas-y.
Non, mais enfin, moi, je l'avais pas vu en vrai. Je l'avais vu sur Internet. Si, Pierre m'a...
Visuellement.
Il me l'a envoyé par Internet. Donc, j'ai pas vu une version papier.
Vous racontez exactement le contraire.
C'est pas...
Ça ne donne ni...
Je vais
demander
à... Attends, excuse-moi.
Et en plus, les...
Attends,
tu veux... C'est trop petit, on sait pas lire.
Mais ça, ouais. Non, mais c'est important.
Et c'est pas l'idée, c'est pas de tout lire. Moi, je répète ce que dit Pierre, qu'il a avec Peter aussi le fait. Mais donc ça, comme c'est un truc qui revenait souvent, Pierre explique qu'en fait, c'est l'idée, c'est pas de pouvoir tout lire. Et justement, comme on peut pas tout lire, que ça nous incite à aller sur le site pour. Mais ça n'a pas forcément d'utilité.
C'est
l'affiche. Moi, ma question pour l'affiche, après j'y ai pensé parce que je les ai affichées en fait dans la rue. Et pour moi, on ne la voit pas de loin. Et quelque part, je ne la vois pas de près non plus. Donc en fait, elle est un peu comme ça, un peu invisible. Je ne la vois pas de loin à cause des couleurs et du graphisme qui est très très minus. Et quand je m'approche, il y a tellement de choses que je me dis, oulala, trop d'infos, trop de bazar, je vais... Voilà, ça c'était mon impression à moi. Mais...
Et toi, ton impression
Ça peut paraître, c'est un peu dispersé là. Voilà, ça, enfin, le centre là m'a l'air un peu... Voilà, c'est dispersé, ça a l'air d'une une carte, mais c'est pas une carte.
Pourquoi c'est pas une carte?
Parce que ça ressemble à une carte.
C'est une carte, ouais.
C'est le quartier, c'est en fait.
Mais c'est une carte.
Ouais, ouais.
Ah, donc c'est une carte.
C'est une carte.
Ah, ok. Ouais.
Les mots suivent, en fait.
Ah, donc j'ai quand même pu avoir une lecture, quand même, malgré le côté dispersé. C'est pas mal, là.
Ouais, donc c'est subtil, peut-être.
Ouais, la carte, je l'ai bien vue. Et peut-être si j'en regardais plus près, si je connaissais Skarbek mieux, j'aurais peut-être vu, ça m'aurait peut-être sauté aux yeux plus facilement.
En fait, ça reprend le schéma des rues, mais on a remplacé le nom des rues par les mots où on les a enregistrés. Donc effectivement, c'est un peu conceptuel comme ça.
On peut retourner...
Ok, je fais une petite coupure, pause.